Nous sommes aujourd'hui avec Magali Guiriac du cabinet Yenea, spécialisée dans la relation entre les générations au travail notamment, mais initialement psychologue du travail. Magali, vous êtes formée aux ressources humaines, vous avez été manager active dans différentes assos pro. Depuis, vous avez donné aussi des cours auprès d'étudiants et d'étudiantes en licence pro ou en master ressources humaines notamment. Bonjour à vous.
Bonjour, je vois que vous êtes bien renseignée.
Aujourd'hui, vous invitez grâce à l'Exploratoire à un atelier pour composer le demain avec une nouvelle partition face au Covid et notamment dans son profil professionnel, trouver de nouveaux objectifs, régénérer son énergie vitale au profit de nouveaux projets, fixer de nouvelles choses. Voilà, vous présentez aussi comme créatrice d'opportunités RH via votre entreprise Yenea. C'est une dynamique courante en entreprise d'envisager les obstacles, les contraintes, les échecs comme des opportunités.
Oui, je crois que c'est une dynamique qui est assez courante parce que une entreprise qui démarre ou une entreprise qui vit une crise comme aujourd'hui est une entreprise qui doit se renouveler et se renouveler avec les êtres humains qui la composent. Actuellement, on le voit bien que les gens sont un peu à bout de souffle, que cette situation en fait psychologique est très difficile à vivre. On doit passer par l'être humain pour que les entreprises se maintiennent et pour qu'on aille vers une forme de performance, mais qui sera une performance ajustée à la crise.
Surtout que c'est une crise finalement assez nouvelle dans sa forme. Aujourd'hui, on ne dispose pas encore tout à fait des dispositifs de ressources humaines qui conviennent. On est encore en train de les construire.
Alors, certains dispositifs sont en train d'être construits, effectivement. D'autres existent déjà et j'ai envie de vous dire que, vous voyez, moi, j'ai pas encore 50 ans. J'ai vécu plusieurs crises dans ma vie, crises économiques assez compliquées. Il y en a une notamment en 2008 dont on se souvient très bien. Il y en a une autre dans les années 99-2000. Et en fait, les entreprises qui ont vécu ces situations-là déjà savent comment faire face à une crise. La crise en soi n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est que nous sommes beaucoup plus impactés psychologiquement que dans les autres crises. Et que dans les autres crises, finalement, c'était les demandeurs d'emploi qui étaient impactés puisqu'il y avait de plus en plus de demandeurs d'emploi. Là, il y a les demandeurs d'emploi qui le sont, mais il y a aussi les salariés qui sont impactés par la crise dans leur quotidien. Et on parle d'ailleurs beaucoup de sens au travail actuellement et de quête de sens.
Justement, on retrouve ça aussi dans les parcours professionnels individuels, cette question de réagir aux crises. Vous évoquez, vous notamment, vous avez subi des licenciements économiques. Mais vous dites aussi exact. ces difficultés que j'ai vécues comme des ruptures sont devenues des atouts pour moi. Comment vous faites pour présenter ça aux gens que les difficultés rencontrées peuvent devenir des atouts, des leviers de rebond?
Alors en fait, je crois que je peux le présenter parce que je l'ai vécu. C'est-à-dire que ça n'est pas uniquement une phrase comme ça qui leur est balancée dans un contexte de crise, un contexte qui les amène à se remettre en question profondément. Je crois que c'est parce que je l'ai vécu dans ma tête et dans ma chair, hein, que ces situations de licenciement économique, du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans rien, avec plus de projets d'entreprise associés aux vôtres. Et en fait, il faut trouver la force en soi de rebondir. Il faut être capable de bien s'entourer, d'avoir des personnes qui soient à l'écoute, des personnes qui croient en vous, ou en tout cas qui ont envie de croire avec vous en ce nouveau projet. Et c'est d'abord en se connaissant bien soi-même qu'on arrive à rebondir derrière. Donc, je les sensibilise effectivement à cette connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes. D'ailleurs, j'anime un autre atelier qui est le savoir pitcher. Et de la même façon, je sensibilise les personnes en fait à la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes. La recherche d'emploi est une période qui force en fait l'individu à mieux se connaître. Ça n'est pas forcément qu'une période difficile, c'est une période aussi de reconnexion avec soi. Et ça n'est qu'en reconnectant avec soi ses réels besoins et le sens qu'on a envie de donner à sa vie et à sa vie professionnelle qu'on arrive à retrouver un projet. Et ensuite, à aller, bien sûr, entre guillemets, le vendre sur le marché de l'emploi ou à essayer de trouver une cohésion entre son propre projet, une correspondance plutôt entre son propre projet et celui d'une entreprise.
Alors là, on parle des personnes en recherche d'emploi, notamment après une perte d'emploi subie. Mais lorsqu'on est au sein d'un poste et que peut-être, comme vous le disiez, il y a une certaine perte de sens, à quel moment on sent que le sens au travail a disparu et qu'il est temps de rebondir, d'aller chercher ailleurs? Est-ce que ça vous arrive d'encourager certaines personnes à faire ce choix de changer radicalement de direction ou en tout cas de créer une nouvelle impulsion dans leur carrière?
Alors, je n'encourage pas forcément les personnes en fait à partir. Je les encourage plutôt à lever la tête et à regarder autour d'eux la situation dans laquelle elles peuvent se trouver et le delta qui existe entre ce qu'elles souhaitent et ce qu'elles vivent. Et c'est elles qui prennent la décision, parce que en tant que psy du travail, en tant que coach, on ne prend jamais de décision à la place de la personne, parce que la personne qui prend sa propre décision aura beaucoup plus de force pour appliquer ce qui suit et pour se mettre en action que si quelqu'un prend la décision à sa place. Et justement, c'est ça qui est le plus difficile, c'est cette bascule, cette prise de risque à nouveau. Mais la prise de risque, quand elle est réfléchie et qu'elle est encore une fois appuyée par des collaborateurs autour de soi, des anciens collègues ou des coachs ou des personnes qui sont là pour croire en vous, eh bien, cette prise de décision, elle est facilitée parce qu'en fait, on a tendance, vous savez, à broyer du noir quand tout va mal et à considérer que finalement, ses propres compétences ne seront pas faciles à vendre à l'extérieur. Vous avez posé une question tout à l'heure qui est à partir de quand on sent que le sens au travail, en fait, on ne l'a plus. Eh bien, à partir du moment où quand vous vous levez le matin, vous n'avez plus envie d'aller travailler. À partir du moment où quand vous avez un responsable qui revient pour la énième fois vous voir sur une tâche que vous n'avez pas appliquée ou pas appliquée correctement, vous n'avez pas envie de donner le meilleur de vous-même pour aller effectivement répondre à ce besoin. Et puis, peut-être aussi que c'est un certain nombre d'années. Mais tout dépend de la personne avec laquelle vous vivez, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire avec vous-même. Est-ce que vous êtes rentré dans un travail parce que vous vouliez un salaire ou est-ce que vous êtes rentré dans un travail parce que vous étiez content d'occuper ce poste-là et que ce poste vous apportait un plus, vous apportait des compétences, vous apportait du bonheur au travail? À partir du moment où les besoins que vous avez identifiés sont en lien avec votre énergie vitale, tout va bien. Le jour où vous n'avez plus ces besoins-là qui sont assouvis, eh bien, vous n'avez plus d'énergie non plus. Vous voyez, c'est vivre en harmonie avec soi aussi, tout ça.
Oui, vous parlez vous-même du terme de la sphère de l'épanouissement. Je veux savoir quel levier il y avait. Là, on parle beaucoup du travail. Est-ce qu'il vous arrive aussi de déborder sur des conseils touchant à la vie sociale, à la vie privée?
Bien sûr. Vous savez, je fais de l'accompagnement aussi à la prise en main de la retraite. Vous voyez, il y a des personnes qui arrivent en retraite et puis elles savent pas trop qui elles sont. Elles ont travaillé pendant plus de 35 ans dans la même entreprise. Elles n'ont jamais eu de feedback. Et puis, du jour au lendemain, elles doivent gérer leur vie, alors que quelque part, on a un peu géré la vie à leur place depuis des années. Eh bien, bien sûr qu'il faut s'accrocher à ce qu'on attend d'un emploi et à ce qu'un emploi peut nous apporter, parce qu'on y passe du temps dans la journée au sein de cet emploi. Mais il y a aussi toute la vie à côté. Et quand on vit une période d'incertitude comme en ce moment, c'est important aussi de se reposer les bonnes questions par rapport à soi. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien dans la journée? Quelles sont les activités qui nous permettent de nous remettre en mouvement? Quels sont effectivement les loisirs vers lesquels on peut aller assez facilement, qui sont encore accessibles même dans une période de confinement? Qu'est-ce qui nous plaît en fait dans la vie? Et qu'est-ce qui fait que on retrouve le sourire? Quelles sont les personnes avec lesquelles on peut échanger et qui vont nous rebooster pour quelques semaines? Vous voyez, tous ces éléments-là, c'est de garder une forme d'optimisme et puis d'être capable de passer un peu de temps pour soi aussi dans les journées que l'on vit, pour s'occuper de soi afin de mieux écouter l'autre.
Vous vous basez sur notamment des modèles de bilan de compétences que tout psy du travail peut employer, mais vous dites aussi que vous inventez vous-même certains outils. Est-ce que vous avez quelques exemples de dispositifs qui fonctionnent bien, que vous avez inventés?
Alors, je détourne des jeux qui existent déjà pour faire prendre conscience. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le Badaboom, qui est un jeu des années 80-90 où il s'agissait d'empiler un certain nombre de pièces de bois de toutes les couleurs. Moi, j'ai détourné ce jeu-là et je l'utilise depuis très longtemps dans des formations, notamment de tuteurs, pour faire prendre conscience en fait aux tuteurs qu'est-ce que c'est qu'une écoute active, et puis de l'autre aussi, quel est l'intérêt d'une bonne consigne. Et en fait, ce jeu permet de travailler sur la consigne et l'écoute, mais aussi permet de prendre conscience que la réalité de l'autre n'est pas forcément la sienne, et donc d'apprendre à mieux communiquer et à s'adapter à l'autre. Voilà un jeu que j'ai détourné. J'ai créé un jeu sur les générations puisque c'est un thème qui est cher à mon cœur, qui a pour objectif, en fait, de mieux comprendre ce que c'est qu'une génération et surtout de comprendre quelle est la force de chaque génération par rapport à celle qui la précède ou par rapport à celle qui la suit. Pour moi, ça n'est pas uniquement catégoriser les générations, c'est apprendre à mieux les connaître pour que chaque génération puisse, au cœur d'une entreprise, trouver sa place, au lieu d'avoir, on va dire, les plus jeunes qui peuvent être parfois exclus et les plus de 45 ans qu'on n'a plus trop envie d'intégrer. Vous voyez? Donc, c'est un jeu que j'ai créé au fur et à mesure de mes expériences au cœur des entreprises. C'est un jeu qui est apparu nécessaire dans les formations tuteurs et qui finalement maintenant a pris son envol. Et je réalise des séminaires dans les entreprises régulièrement sur ce que c'est qu'une génération, quelle est la force d'une génération par rapport à l'autre, en évitant de stigmatiser une génération plus que l'autre, puisque même si on fait partie d'une même génération, on peut aussi être des êtres uniques au sein de cette génération-là. Il suffit juste de prendre le temps de se connaître. Et avec les différentes transitions que nous vivons, et nous sommes en train d'en vivre une là en plus qui est quand même assez inédite, eh bien on prend plus le temps de se connaître. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, entre les générations, au cœur d'une entreprise, il peut y avoir des tensions.
Pour rester sur cette question de génération et sans stigmatiser, plutôt chercher éventuellement des caractéristiques, vous avez évoqué tout à l'heure une génération importante, celle des baby-boomers, qui notamment, une fois le travail fini, celle voilà, qui arrive à la retraite, la famille a pris beaucoup de place. Vous parlez notamment des femmes, et c'est cette question qui m'intéresse. Elles avaient du temps, vous dites, pour leur mari, pour leurs enfants, du temps pour un travail qui était une forme d'émancipation, mais pas de temps pour elles. Et quand l'activité s'arrête, la seule chose qui pouvait leur permettre un épanouissement personnel s'effondre. Donc les hommes ont su intégrer des réseaux, s'engager au niveau associatif. Les femmes, elles, ont plus de difficultés, leur vie est plus souvent grignotée par leur vie de mère. Comment est-ce qu'on explique les spécificités de cette génération de femmes ?
Alors, c'est une excellente question que vous posez là. Il est très vrai que les personnes que j'accompagne en début de retraite sont souvent des femmes qui ont été, vous le dites fort bien, qui ont été intimement consacrées à leur mari et à leurs enfants pendant des années, avec parfois un job à côté, parfois pas. Donc, elles ont vécu par procuration, en fait. Elles ont vécu par procuration parce que la génération de leur mère était aussi dans ce schéma-là. En fait, il a fallu attendre la fin des baby-boomers, parce que vous savez que certains baby-boomers, ils sont encore au travail, hein, certains. Hein, ils ont 59, 60 ans. Et vous avez des X qui suivent derrière qui ont 55, 56 ans. Hein. On a des X qui sont âgés aussi maintenant hein, par rapport aux générations. Et en fait, il a fallu attendre la génération X pour que les femmes aient quasiment toutes un emploi, parce qu'il suffisait pas d'avoir un seul salaire dans le couple pour que ça fonctionne. Il en fallait deux. Et donc, il a fallu jongler entre la vie de famille et la vie professionnelle. Mais certaines n'ont pas développé cette appétence pour un loisir. Le loisir pour elle, c'était d'élever les enfants, en fait, quelque part. Et puis, je crois que actuellement, le changement aussi de paradigme que l'on observe chez les jeunes hommes qui mettent beaucoup plus facilement la main à la pâte, qui que ce soit dans les tâches ménagères ou que ce soit au niveau de la vie de famille, tout ça, en fait, ça dégage du temps et les femmes ont plus de temps pour aller vers un loisir et se faire plaisir. Le faire plaisir, en fait, il y a quelques années, c'était la vie de famille, en fait. C'était pas la vie à côté de la famille ou à côté du couple. C'était pas commencer par soi pour s'occuper des autres, en fait. On s'occupait des autres. Et soi, en fait, n'existait pas de la même façon. Il existait à travers l'autre et non pas en tant que tel. Et c'est pour ça, à mon avis, que les choses ont changé. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de temps pour qu'il y ait un loisir d'envisager. Et c'est vrai que ces femmes qui arrivent à la retraite et qui n'ont toujours vécu qu'à travers leur mari ou à travers leurs enfants, quand les enfants quittent la maison, c'est extrêmement brutal, hein. C'est un vrai questionnement sur son identité personnelle, une identité qui n'a quasiment jamais été développée parce qu'elle est passée de l'identité familiale à l'identité professionnelle, en fait. Mais il n'y a jamais eu d'identité en soi. Donc, voilà un peu comment j'explique ça. Moi, je pense que c'était un héritage des autres générations qui n'étaient pas forcément remis en question. Et puis, on avait des semaines bien remplies aussi, hein. L'arrivée des 35 heures a libéré aussi un peu de temps. Mais 39 heures dans la semaine au travail, eh bien, le week-end, c'était les tâches ménagères et puis on recommençait la semaine, quoi. Vous voyez, je pense que l'individu en tant que tel n'était pas mis au centre du jeu. Et c'est ce qui fait d'ailleurs peut-être que des personnes ont actuellement du mal à s'en sortir avec ce qui se passe. C'est que si vous ne vous occupez pas de vous-même, eh bien, à un moment donné, vous vous y retrouvez plus dans une vie où vous êtes entre le télétravail et puis votre vie de famille, quoi.
Chez les plus jeunes générations, l'individu est peut-être mis davantage en avant. Quelle force vous constatez, vous, de cette génération des plus jeunes ?
Alors, en fait, les plus jeunes, ils ont compris quelque chose qui, moi, me semble essentiel, qu'on avait commencé à comprendre en tant que génération X, mais qu'on n'a pas pu mettre en place. Parce que tout ça, c'est une question de temps et une question d'époque. C'est pour ça que je dis souvent qu'une génération bénéficie de celle qui l'a précédée, en fait, vous voyez ? Aussi, pas que dans le côté négatif, comme on vient de le voir avec les baby-boomers. Les jeunes, ils ont compris que la vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant et qu'il faut pas forcément attendre la retraite pour vivre. Et que de toute façon, cette retraite, elle arrivera bien tardivement et qu'elle ne sera pas à la hauteur financière, effectivement, de ce qu'on aurait pu constater il y a quelques années. Donc, la vie, c'est maintenant. Ils ont compris aussi que on passe beaucoup de temps au travail, donc autant que ce travail soit utile, agréable et qui ait du sens, ce genre de quête n'est pas ouverte à tous les individus d'une même génération. Les individus qui font peu d'études n'ont pas forcément beaucoup de choix, sauf lorsqu'ils sont complètement passionnés. Vous prenez des jeunes qui vont vers l'ébénisterie ou vers la cuisine et qui s'accrochent vraiment. Là, on a un niveau d'études qui est pas très élevé, mais en même temps, on a un métier passion. Donc là, je pense qu'on vit le sens au quotidien. Mais pour les autres, faut souvent aller chercher des métiers avec quelques années d'études pour avoir un petit peu plus d'ouverture. Moi, je crois que c'est vraiment essentiel de se dire que c'est important de s'occuper de soi, mais qu'on ne s'occupe pas de soi égoïstement, qu'on s'occupe de soi parce que c'est en étant bien soi dans sa propre peau qu'on peut être aussi bien avec les autres. Regardez tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'agressivité, là, qu'on peut ressentir, que ça soit dans la rue, entre les gens, etc. Ce sont des gens qui sont pas bien intérieurement. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à faire le vide, qui n'arrivent pas à retrouver une forme de sérénité parce que la situation est peut-être très complexe pour eux et qui n'ont pas les clés pour y arriver tout seuls. Le souci qu'on a en France encore à l'heure actuelle, c'est que les gens qui n'ont pas les clés tout seuls ne vont pas spontanément chercher des psys non plus. Alors là, je vous parle pas du psy du travail, je vous parle du psy clinicien. Je vous parle du psychiatre, je vous parle du psychothérapeute, mais en fait, on va facilement voir un médecin pour avoir des somnifères, on va facilement voir un médecin pour prendre du Prozac, mais on ne va pas facilement voir un psy pour parler de ses problèmes, alors que quelquefois, on pourrait éviter de prendre somnifères et Prozac, vous voyez ? Donc, je trouve que les jeunes qui finalement réfléchissent aussi à leurs loisirs et à leur bien-être, eh bien, est-ce que c'est pas une manière pour eux finalement de s'équilibrer dans un monde qui va être en perpétuel changement ? Puisque l'incertitude, en fait, on est en train de la vivre actuellement, mais je crois qu'on va la vivre tout le temps. Alors, on la vivra pas de cette manière-là, peut-être, mais on sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Donc, finalement, le changement, il fait partie de nous. Regardez-vous dans la glace maintenant et il y a 10 ans. Vous voyez, je pense qu'il faut prendre une forme de philosophie. Et puis surtout, un petit conseil que je donne aussi à toutes les générations, c'est de se sevrer des médias là actuellement. En tout cas, pas tous les médias et surtout pas non-stop, quoi. Parce que vous ouvrez la radio le matin, vous l'allumez et vous entendez que des mauvaises nouvelles. Donc au bout d'un moment, c'est difficile de vous renouveler.
En ce qui concerne les étudiants, je voulais savoir si tout ça c'était un petit peu transposable, tout ce qu'on s'était dit en termes de recherche de sens, en termes de recherche de travailler sur sa sphère d'épanouissement. Vous pensez que toutes ces dynamiques dont on a parlé au travail sont aussi valables dans les études ?
Alors ça, c'est une vraie question. Moi qui travaille avec des étudiants, c'est pas toujours simple. C'est vrai que actuellement, ils sont tout seuls chez eux souvent. Ils ne vivent pas du tout ce deuxième confinement comme le premier, parce que le premier, finalement, certains avaient eu le temps de rentrer chez eux, dans leur famille. Là, ils sont certains d'entre eux, vraiment tout seuls, quoi, de 8h le matin à 20h le soir, avec quasiment plus de vie sociale. Donc, c'est difficile, mais c'est vrai que je crois que c'est important de faire des pauses de temps en temps et puis de se faire plaisir. Et puis surtout, de ne pas rester enfermé. Parce que vous savez, cette histoire d'enfermement et de confinement, à un moment donné, elle vous confine aussi intérieurement. On a cette sensation-là, quand on est confiné physiquement, à un moment d'être confiné aussi dans sa tête, vous voyez? Donc, quand il y a des moments où vous vous sentez pas forcément dans votre assiette le matin, eh bien, peut-être qu'il vaut mieux ne pas démarrer tout de suite ce que vous aviez l'intention de faire et aller vous promener ne serait-ce qu'une demi-heure. Alors, vous allez me dire, oui, mais si les cours commencent, bah, effectivement, c'est pas possible. Dans ces cas-là, vous faites votre journée de cours et vous allez vous promener à la fin. Parce que c'est pareil, passer des heures devant la visio, que ça soit face à un prof ou que ça soit face à des amis, à un moment donné, on va dire que la substantifique moelle de la vie, vous ne la ressentez plus, quoi. Vous voyez, c'est bien d'échanger, mais l'écran a quand même une dimension très plate et froide, alors que la nature autour de vous, surtout une nature qui change en fonction des saisons, il y a toujours des choses à observer et ça vous permet de prendre un peu de recul avec ce que vous vivez au quotidien. Donc, garder un esprit positif, c'est important. Se faire plaisir pour le conserver, cet esprit positif. Et puis, je crois qu'il faut pas tout s'interdire non plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous respectez les gestes barrières, eh bien, vous pouvez aussi aller voir des personnes qui vous font du bien. Parce que le contact humain, quand même, c'est la vie, hein.